Alors, bien le bonjour à tous en ce jeudi 6 octobre 2022. Bienvenue à cette autre bénédiction matinale. On vous rappelle qu'on fait une série actuellement d'environ un peu plus de 25 leçons sur le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux avec la thématique globale « C'est par la foi ». Et régulièrement dans ce chapitre, on a des versets où on commence la mention avec c'est par la foi que. C'est par la foi que telle personne a fait telle chose, c'est par la foi que telle personne a cru telle chose, c'est par la foi que telle personne s'est disposée à telle chose. Donc on continue aujourd'hui avec notre 12e leçon ou 12e personnage et aujourd'hui on parle de Joseph, le fils de Jacob, le fils bien-aimé de Jacob, qu'il aura perdu pendant de nombreuses années, croyant qu'il était mort, mais plutôt il avait été vendu par ses frères et par la suite par un concours de circonstances que Dieu avait planifié, prévu, pensé, on le verra aujourd'hui dans la lecture, Joseph a été en mesure de sauver ses frères. Donc, on va prendre dans Hébreux au chapitre 11, ce sera le verset 22 aujourd'hui, Hébreux 11, 22, et le texte parallèle qu'on aura l'occasion de lire aussi dans Genèse 50, des versets 15 à 26. Donc, pour tous ceux qui prennent des notes, Hébreux 11, 22 et Genèse 50, 15 à 26. Alors prions et nous débutons l'enseignement pour aujourd'hui. Alors merci Seigneur pour ce temps. Merci pour cette autre bénédiction matinale. Merci pour cette autre occasion que nous avons d'étudier ta parole, d'être nourris, abreuvés, fortifiés par elle. Nous te demandons Seigneur d'ouvrir notre entendement et notre pensée à ta pensée. Que celle-ci ait prévalence sur chacun d'entre nous, sur chacune de nos pensées, sur chacun de nos positionnements. Qu'en toute chose, Seigneur, tu puisses nous instruire et nous permettre, Seigneur, de saisir ton cœur, ta pensée pour nous. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous aimes, tu prends soin de nous, tu ne nous abandonnes pas et nous savons que la parole de ce matin nous fera du bien, ayant été préparée de toute éternité pour que nous l'écoutions en ce jour. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et majestueux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, on lit tout d'abord dans Hébreux 11, 22, puis on ira dans Genèse 50, 15 à 26, et je reviendrai donc à Hébreux 11, 22 en toute fin. Alors, Hébreux 11, 22 nous dit, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Je répète. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Genèse 50, verset 15 nous dit, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Je retourne à Hébreux 11, 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Alors que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est étonnant de voir que sur toute l'histoire d'Israël, ou toute l'histoire de Joseph plutôt, lorsqu'on parle dans le temple de la renommée de la foi, lorsqu'on parle des héros de la foi et qu'on parle de Joseph, l'histoire qu'on relate, c'est pas les différents accomplissements que Joseph a eu à faire durant toute sa vie, mais comment à sa mort, ou à la veille de sa mort, il va parler à ses frères, à ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, en leur demandant de ramener ses os vers le territoire de Canaan, vers la terre promise, vers cet endroit qui avait été donné par l'Éternel à Abraham, Isaac, Jacob et à leurs descendants. Quand même étonnant, parce que lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph, il y a quand même plusieurs choses. On se rappelle qui est Joseph, le fils cadet jusqu'à la venue de Benjamin, le fils cadet de Jacob, le fils bien-aimé de Jacob, qui reçoit des révélations de la part de Dieu, qui reçoit des visions et des messages de la part de Dieu. Et ces messages montrent qu'à un moment donné, dans sa vie, il est appelé à tenir une position hiérarchique supérieure à tous ses frères. Ça ne dérange pas trop Jacob, bien que ça puisse mettre un peu de zizanie avec ses frères. Mais à un moment donné, il a une vision, et dans cette même vision, même Jacob vient à se prosterner devant Joseph. Et là, ça ne va plus. Alors Jacob le reprend en lui disant qu'il est plus ou moins un vaniteux et un orgueilleux. Mais la chose continue. Ses frères, eux pourtant, en ont contre Joseph. Et à un moment donné, alors qu'ils sont dans les champs, assez éloignés de la maison de leur père, ou de la tante de leur père, ils vont décider de mettre Joseph dans une citerne. Donc une citerne qui est vide, un puits qui est vide. Ils vont l'enfermer dans cette citerne en se disant « on l'oublie là ». Et là, au loin, ils voient une caravane de marchands madianites qui se dirige vers l'Égypte. Et ils décident donc de vendre leur frère plutôt que de les laisser périr là. Et ils le vendent comme esclave. Joseph va donc partir en esclavage en Égypte. Et il va être vendu à quelques reprises. Les frères rentrent à la maison pour ne pas, ou pour justifier l'absence de Joseph. Ils ont pris sa tunique, l'ont déchirée, l'ont tachée de sang d'un chevreau pour laisser croire au père qu'une bête sauvage est sortie de nulle part et a tué le préféré des fils de Jacob. Et Jacob va vivre dans le deuil pendant de nombreuses années, 18 ans, jusqu'à ce que, par la main de Dieu, Joseph, qui a connu différentes péripéties, arrive au trône d'Égypte comme étant l'intendant principal du Pharaon, qu'il va aider par sa sagesse et par ses calculs durant une période de famine, qui va faire en sorte que toute la région est affamée, toute la région cherche des denrées, mais dans la précaution de Joseph qu'il a communiquée à Pharaon, l'Égypte s'en sort mieux que dans les contrées avoisinantes. Ses frères vont être envoyés par Jacob, leur père, pour aller ramasser des denrées en Égypte, arriver là-bas. Joseph, qui est maintenant habillé, maquillé, vêtu, qui parle même la langue arabe, va recevoir les frères sans que ceux-ci ne le reconnaissent. Rappelons-nous qu'ils l'ont vendu alors qu'il était tout jeune, 18 ans se sont passés. Il est maintenant un homme aguerri et un homme haut placé. Et eux ne pouvaient pas penser que leur frère était maintenant devenu l'intendant du pharaon, du roi d'Égypte. Joseph va révéler sa personne à ses frères, va faire venir Jacob jusqu'en Égypte et vont vivre avec Joseph, ses frères, son père et tout ce qui leur appartient pendant toute la vie de Jacob. Jacob étant mort, c'est là qu'on arrive à cette histoire qu'on a lue dans Genèse 50. Les frères se disent, c'est maintenant le temps que Joseph va utiliser probablement pour se venger. Alors ils s'approchent de leur frère qu'ils avaient vendu très chétivement, de façon effrayée. S'approchent de Joseph et vont inventer une conversation avec leur père, vont inventer une demande de leur père qui dit « Ben maintenant que je pars, je te prie de pardonner à tes frères et de ne pas les venger ou de ne pas chercher vengeance pour le mal qu'ils t'ont fait. » Si Jacob avait eu de tels propos, si Jacob avait craint que Joseph se venge une fois sa mort arrivée, Jacob avait tout le temps de parler à Joseph, avait toute l'occasion de parler à Joseph, notamment dans l'histoire qu'on a vue hier, lorsque Jacob va bénir les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Joseph fond en larmes en écoutant les propos de ses frères et les conforte en leur disant, regardez, vous aviez médité du mal contre moi, mais Dieu l'a changé pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, donc pour sauver votre vie, mais sauver aussi la vie d'un peuple que nous savons, puisque promis à notre arrière-arrière-grand-père, ou notre arrière-grand-père plutôt Abraham, puis à notre grand-père Isaac, puis à notre père Jacob, on sait tous que nous devons devenir une grande nation. Alors, pour sauver cette grande nation, Dieu a procédé ainsi. Vous aviez médité du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et j'ai pu donc prendre soin de vous. Et Jacob les rassure en leur disant, je prendrai soin de vous. Je vais vous entretenir, vous et vos enfants. J'ai les moyens, j'ai la capacité. Je vais passer outre la vengeance que je pourrais exercer maintenant que mon père n'est pas pour prendre soin de vous et je le fais de tout cœur. Je vous demande une seule chose. Quand moi-même je serai à la veille de ma mort, j'aimerais que vous vous rappeliez qu'une fois parti, lorsque vous retournerez à Canaan, vous retournerez dans la terre promise, je veux que vous preniez mes os et que vous les rameniez avec vous jusqu'à Canaan, jusque dans la terre promise. Et c'est la seule demande que Joseph va faire. Joseph va mourir à 110 ans. On l'embaume dans la technique égyptienne qu'on peut voir dans différents films. Donc plus ou moins on le momifie et on le met dans un cercueil en Égypte, attendant un jour que le peuple effectivement accomplisse cette prophétie, cette parole prophétique de Joseph et retourne à Canaan. Alors on nous dit C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël. Joseph leur dit foncièrement comme premier point, vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas d'Égypte. Foncièrement, il leur dit, ne tombez pas dans le piège de l'abondance. Parce que moi, en tant qu'homme, je suis devenu riche et je prends soin de vous et je vous fais fructifier et croître, mais je vous dis, vous n'êtes pas d'ici. Alors, il les exhortait à ne pas tomber dans le piège de l'abondance en étant satisfait de leur nouvelle situation en Égypte, au point d'en perdre la vision divine. Joseph, qui était au sommet de sa gloire, puisque après lui, avant lui, le plus fort, il n'y avait que Pharaon. Joseph était son intendant principal, donc il avait droit de vie et de mort sur à peu près tout ce qui se mouvait en Égypte. Il avait le droit d'aller puiser dans les coffres et dans les richesses de Pharaon, mais il dit, nous ne devons pas nous arrêter à cette vision d'ici-bas, à cette vision et au piège que représente parfois l'abondance. Vous n'êtes pas d'ici. Rappelez-vous que vous sortirez d'Égypte. Et c'est parfois l'erreur que nous faisons. Nous regardons les richesses d'ici-bas sur terre en oubliant que nous ne sommes que des pèlerins ici-bas sur terre et en perdant de vue la cité céleste à laquelle nous sommes appelés. Alors la foi doit nous rappeler que nous ne sommes pas d'ici. La foi, et on se rappelle que c'est la foi dans le salut en Christ mort et ressuscité pour le pécheur repentant. Cette foi doit garder nos yeux fixés sur le prix, et le prix n'arrive. Le cadeau, la grâce, le salaire, peu importe le terme que vous voulez utiliser, n'arrive que dans l'éternité, que lorsque nous serons pour toujours avec Christ régnant à ses côtés pour l'éternité. Alors le premier point aujourd'hui, vous n'êtes pas d'ici, ne tombez pas dans le piège de l'abondance. Même lorsque les choses autour de vous commencent à croître, même lorsque la bénédiction de Dieu est sur vous et que les choses se multiplient autour de vous, gardez toujours en vue l'éternité vers laquelle on chemine. Lorsque Joseph leur dit, leur parle de leur retour à Canaan, il leur dit aussi, vous n'êtes pas d'ici, ne tombez donc pas dans le piège de la tribulation, en étant découragé par votre situation, au point d'en perdre la vision divine. Joseph ne le sait pas encore, mais son peuple va par la suite rester 400 ans en Égypte, dont une bonne partie va être à titre d'esclaves, esclaves de pharaons qui n'ont pas connu Joseph, de pharaons qui n'ont pas vécu des bénéfices d'avoir Joseph à leur côté. Alors ces nouveaux pharaons n'auront pas la reconnaissance que le contemporain de Joseph pouvait avoir et vont commencer à malmener ce peuple étranger qui se trouve sur leur territoire en Égypte, ce peuple descendant de Abraham, Isaac, Jacob, Joseph en l'occurrence, qui prospère, qui grandit, mais qui prend aussi la place de l'Égypte. Alors Joseph ne sait pas que la tribulation arrive, mais il dit malgré tout, un jour vous sortirez. Alors le peuple d'Israël, lorsque ils sont en train de subir l'outrage de l'esclavage, ramène quand même à ses pensées constamment comme quoi Joseph a annoncé que nous allions sortir. Pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas tomber dans le piège de la tribulation et du découragement par rapport à notre situation, au point d'en perdre la vision divine, au point d'en perdre la destination qui est nôtre. Il y a des gens qui abandonnent la foi, comme on le disait au point précédent, en raison des richesses et de l'abondance de cette terre. Il y en a d'autres qui abandonnent la foi en raison de l'outrage, en raison de la tribulation qu'ils peuvent parfois traverser ici-bas sur terre. Lorsque Joseph finalement va dire « Vous n'êtes pas d'ici », il leur dit « Dieu vous visitera et vous fera remonter vers la terre promise. » Dieu vous visitera et vous fera remonter vers la terre promise. Il leur dit non seulement la destination qui sera la leur, mais il leur dit aussi le point déclenchant ou déclencheur plutôt qui les mènera vers cette terre promise, la visite de Dieu. Foncièrement, Joseph est en train de leur dire, vous n'êtes pas d'ici, toutefois, ne partez pas avant, ne partez pas après, partez lorsque Dieu vous fera remonter et lorsque Dieu vous aura visité. Et ici, il est en train de leur enseigner de se soumettre au temps de Dieu. Joseph, à la veille de sa mort, va dire à ses frères, « Il y a des pièges qui se tendent devant vous. Vous n'êtes pas d'ici, mais vous pourriez avoir comme pensée que vous allez rester ici puisque vous vous êtes enrichi. » Puis il leur dit, « Vous pourriez passer par des moments difficiles et perdre courage, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas d'ici. Vous avez une autre destination. Il y a une suite après la tribulation. » Mais il leur dit, la suite ne va s'accomplir telle qu'elle doit s'accomplir qu'à travers la visite de Dieu au moment opportun, au moment donné par Dieu, au moment fixé par Dieu. Il viendra, vous visitera et vous mènera alors dans la terre promise. Et pour nous, c'est parfois difficile de savoir qu'il y a mieux pour nous ailleurs et d'attendre le temps de Dieu. Vous savez, avant le temps, il y a l'expression qui dit qu'avant le temps, ce n'est pas le temps. Et qu'après le temps, ce n'est plus le temps. Être dans la volonté de Dieu et avoir la foi que Dieu fait tout ce qu'il fait parfaitement, c'est aussi accepter non seulement ce qu'il fait, comment il le fait, mais quand il le fait. Accepter qu'on doit passer parfois par un temps de tribulation. Accepter de ne pas s'attacher aux choses de cette terre, même si elles sont jouissives, même si elles sont précieuses, même si elles nous semblent attrayantes. Ne pas avoir notre cœur ici-bas sur terre, ne pas avoir ici-bas sur terre notre trésor. Paul va le dire clairement en disant, là où est ton trésor sera aussi ton cœur. N'ayons pas notre cœur ici-bas sur terre, mais gardons-le dans la prophétie qui nous a été donnée, comme quoi Christ est allé préparer une place pour nous. Nous ne sommes que des voyageurs ici-bas sur terre. Nous ne sommes pas d'ici. Joseph va leur dire, vous n'êtes pas d'ici. Dieu vous fera sortir. Et je vous demande d'amener mes os avec vous lorsque vous sortirez. De toutes les expériences vécues par Joseph, durant lesquelles il a démontré sa foi, plus ferme encore que bon nombre d'entre nous, Dieu va ramener à la mémoire du lecteur de l'Épître aux Hébreux. À travers son auteur, il va le ramener à cette fin de vie de Joseph, où Joseph, même à la fin de sa vie, continue à être fidèle. Dans la première section, c'était Joseph qui leur disait, « Vous n'êtes pas d'ici. » Mais Joseph se dit aussi, « Je ne suis pas d'ici. » Et voilà pourquoi je veux que vous rameniez mes os jusqu'à Canaan, jusqu'à la terre promise. Joseph va même leur dire, « Je ne suis pas d'ici. » un peu plus tôt. Il va dire, je ne suis pas d'ici, je ne m'arrête pas aux choses qui sont survenues ici. Je ne veux pas être enchaîné par la rancœur et l'amertume. Ses frères ont peur que Joseph veuille se venger. Ses frères ont peur qu'une vengeance légitime, humainement parlant, de Joseph s'abatte sur eux. Alors ils fomentent une espèce de discours qu'ils prétendent avoir eu avec Jacob pour amadouer leur frère. Mais leur frère leur dit, mais regardez, je suis passé outre cela. Je ne suis pas d'ici. Je ne veux pas être enchaîné avec la rancœur, avec le désir de vengeance, avec l'amertume. La maltraitance dont j'ai souffert, Dieu l'a utilisée pour sa gloire, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ça, c'est un peu comme Jésus. Comme Jésus qui accepte de souffrir le calvaire, la croix Golgotha, à cause de toi, à cause de moi, pour nous, pour toi, pour moi, pour sauver un peuple nombreux, un peuple qui n'existe pas, un peuple qui commence, une église que Christ est en train de bâtir. Et pourtant, pour cette église, il décide effectivement de subir l'opprobre et de mourir. Joseph a subi l'opprobre et l'a accepté, comprenant que ça faisait partie du plan de Dieu pour une œuvre plus grande que sa petite personne. Alors Joseph va dire, je ne suis pas d'ici et je ne me laisserai pas enchaîner par les mauvais sentiments. Il va dire aussi, je ne suis pas d'ici, bien que je doive mourir et que l'on disposera de mon corps comme les Égyptiens le font, donc la momification, mais moi je suis d'ailleurs. Alors même en mourant, Joseph disait, je suis d'ailleurs, ma destinée est ailleurs. Parfois on voit la fin de notre vie s'approcher et on est terrifié par ce qui vient devant nous. On voit la fin de notre existence progresser et la terreur nous prend. Joseph était tout tranquille, sachant qu'il n'était pas d'ici. Lorsque la mort vient frapper à notre porte, en tant que croyants, nous devons avoir cette assurance que de toute manière, ici-bas sur terre, nous ne sommes que des voyageurs, des pèlerins. Et nous avons une destinée, une destination beaucoup plus glorieuse que les plus somptueux palais de cette terre. Joseph comprend qu'il n'est pas d'ici et il va vivre comme n'étant pas d'ici. Il va vivre en préparant son arrivée dans la terre promise, même si celle-ci doit se passer après sa mort. Il dit, je ne suis pas d'ici. La vision qui m'habite va bien au-delà de ma personne et bien au-delà de ma vie. Il continue à croire en la véracité de la promesse, même en dépit de cette mort qui est imminente. Même en dépit de tout ce temps qui s'est écoulé, de tout ce chemin qui a été parcouru, de la distance qui le sépare de la terre promise, il y croit encore et toujours. Il dit enfin, je ne suis pas d'ici. Mes os serviront pour les générations à venir comme rappel du témoignage quant à la promesse à venir. Pendant 400 ans, Israël va être en Égypte. Pendant 400 ans, les os de Joseph qui se doivent éventuellement d'être ramenés à Canaan, ces eaux-là sont en train d'enseigner le peuple, de prêcher au peuple en disant, nous ne sommes pas d'ici, nous partirons un jour. Ces eaux-là sont en train de témoigner de la terre promise qui dit au peuple qui se fait battre, qui se fait flageller en tant qu'esclave, nous ne sommes pas d'ici. Nous ne sommes qu'en marche vers quelque part. Mais Dieu viendra nous visiter, comme l'a dit notre père Joseph. Et nous sortirons pour aller dans cette terre promise. Alors que le peuple était en train de s'enrichir, ses eaux leur rappelaient, ne vous ancrez pas sur cette terre. Il y a une destination vers laquelle Dieu vous conduira. En tant qu'Église, on est un peu comme ce peuple d'Israël, qui ne fait que passer ici-bas. Dans certaines contrées, on y vit bien. Et là, Joseph viendrait nous dire, ne tombez pas dans le piège de l'abondance. Dans certaines contrées, on y vit en toute liberté, en pouvant croître facilement. Et oui, Joseph nous dirait, Église, fais attention de ne pas tomber dans le piège de l'enracinement à cause de l'abondance, en étant satisfait de notre situation et en perdant la vision divine de ce Jérusalem céleste, de cette cité céleste vers laquelle nous sommes appelés et vers laquelle nous marchons. Dans d'autres contrées, ici-bas sur terre, Joseph parlerait à l'Église en disant, Église, ne crains pas la tribulation, ne crains pas le temps d'affliction qui est le tien aujourd'hui, parce que tu es destiné à davantage, à mieux, à plus loin. Et Joseph rappellerait à l'ensemble des croyants qu'au moment venu, Dieu nous visitera. La trompette va sonner et Christ va venir chercher son Église. Non, vous n'êtes pas d'ici. Non, nous ne sommes pas d'ici. Mais tant que nous sommes ici-bas sur terre, veillons aussi à notre cœur. Veillons à ne pas être enchaînés aux choses de cette terre avec la rancœur, l'amertume, le manque de pardon. Rappelons-nous que nous sommes dès à présent d'ailleurs, que nous sommes dès à présent des citoyens de la cité céleste, des habitants du royaume de Dieu, des membres du royaume de Dieu, qui ne vivent plus sous le joug de l'iniquité, du péché, de la haine, mais qui vivent sous la grâce, qui ont bénéficié la grâce et qui répandent la grâce autour d'eux. Rappelons-nous que même si elle tarde à se réaliser, cette promesse n'a pas été faite par un homme. Joseph voyait la fin de ses jours arriver et il savait qu'il ne sortirait pas d'Égypte. Mais il savait qu'un jour on prendrait ses eaux pour les amener dans la terre promise. Peut-être que nous ne verrons pas toutes nos promesses s'accomplir de notre vivant et que ce sera l'éternité qui nous révélera l'accomplissement de ces promesses. Peut-être que c'est les générations qui nous suivent qui accompliront la vision qui nous a été donnée. Mais rappelons-nous, nous ne sommes pas d'ici. Nous marchons vers la cité céleste. Et à l'instar de Joseph, qui a laissé un héritage à ses descendants, qui a laissé un héritage à l'ensemble du peuple d'Israël, donc ses descendants et les descendants de ses frères. Ses os, ses ossements qu'on devait ramener dans la terre promise et qui ont servi d'enseignement à un peuple pendant toute cette période où ils étaient loin de la terre promise. Que nos vies soient comme un legs dont les prochaines générations vont hériter. Que notre témoignage soit un héritage pour nos prochaines générations, qui ayant vu un aîné dans la foi, une aînée dans la foi, se comporter intègrement et rester fidèle à Dieu, leur donne l'impulsion nécessaire, leur donne le témoignage nécessaire, leur donne l'exemple nécessaire pour continuer à vivre comme n'étant pas d'ici et comme marchant vers l'éternité avec Christ. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour l'exemple de Joseph qui, bien après la destruction de ses os, nous sert encore d'exemple. Un homme qui a vécu sachant qu'il n'était pas d'ici et qui a vécu jusqu'aux derniers instants de sa vie en ayant comme un seul objectif cette terre promise qui leur avait été annoncée et qui tenait à ce que les générations qui suivraient après sa mort puissent encore se rappeler du message de cette terre promise. Nous avons un tel mandat avec notre génération qui est de les orienter vers ailleurs qu'ici-bas, de les orienter vers cette terre promise dans laquelle nous vivrons pour l'éternité avec Christ. Je prie, Seigneur, d'être fidèle à ton appel, à ta vision, jusqu'à la fin de ma vie ici-bas sur terre. Même si je ne devais profiter de ces promesses que dans l'éternité, un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs. Et je me réjouis d'avance de ce jour où je serai en ta présence pour toujours. Merci Seigneur pour notre père Joseph, notre frère Joseph, qui nous a enseigné ce matin à travers sa motivation et à travers son orientation, même au crépuscule de sa vie. Qu'il en soit de même pour nous. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et majestueux nom de notre Roi et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve demain matin pour la dernière bénédiction matinale de la semaine. Je vous dis qui nous verrons demain. Donc demain, nous parlerons des parents de Moïse avec les versets 22 et 23. Alors j'espère que vous avez été bénis. Rappelez-vous, nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes en marche vers le royaume de Dieu. Nous sommes en marche vers l'éternité. Préparons-nous, préparons-la comme il se doit. Que Dieu vous bénisse.